Après le succès de L'Emprise, découvrez Quinquennat, le nouveau roman de Marc Dugain. L'histoire d'un homme qui ne vit que pour le pouvoir, qui manipule, orchestre, détruit. Mais que fera-t-il une fois le pouvoir suprême entre ses mains? Parce qu'en politique, il y a des vérités que seul un roman peut dévoiler. Lisez Quinquennat de Marc Dugain aux éditions Gallimard et retrouvez L'Emprise en folio.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Lola qui vit à Istanbul, mais aussi Eric, petit-fils de réfugiés de 1915, avait demandé à Franck Ferrand une émission sur le génocide des Arméniens à l'approche du centenaire des massacres. Le moment lui a semblé venu de la proposer. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Ma dernière émission sur le sujet remonte à 10 ans déjà, et je dois vous dire qu'elle m'avait valu des réactions très fortes de part et d'autre. Réactions officiellement outrées côté turc, pleine de passion côté arménien. Nous allons aujourd'hui tenter de dire sobrement et posément les choses en compagnie d'un éminent spécialiste de la géopolitique, Gérard Chalian.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Olivier sur l'origine de l'expression « filer un mauvais coton ».
Ça, c'est ce que vont penser tout à l'heure les moins sages de nos auditeurs. Pour le moment, nous repartons 100 ans en arrière, hélas.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Cent ans, c'est peu de choses. Quatre générations. Une vie d'homme pour les plus résistants. Le temps encore chaud des arrière-grands-parents et en même temps, un siècle, c'est un recul suffisant pour analyser et comprendre les événements ou tenter de les comprendre. C'est assez long, 100 ans, pour reconnaître, pour accepter ce que d'autres générations ont eu du mal à admettre, c'est le moins qu'on puisse dire dans le cas qui nous occupe aujourd'hui. Dites-vous qu'à l'heure où je vous parle, l'État turc continue de réfuter en bloc l'existence d'un génocide des Arméniens. C'est tout juste si l'année dernière, le 23 avril 2014, le Premier ministre Erdogan a présenté dans un communiqué les condoléances d'Ankara, je cite, au petit-fils des Arméniens tués en 1915. C'est un premier pas timide, mais c'est un premier pas. La France, quant à elle, fait partie des quelques États qui ont officiellement reconnu le génocide arménien par un vote de l'Assemblée du 29 janvier 2001. Alors, par la suite, en 2006, une de ces lois mémorielles qui, à mon avis, n'ont rien de bon à nous apporter, a bien failli être adoptée. Bloquée en 2008, elle a finalement été votée en 2011 et en 2012 par l'Assemblée nationale et par le Sénat, avant d'être retoquée par le Conseil constitutionnel. Mais peu importe, au-delà des péripéties juridiques, on ne doute pas en France de la réalité des faits que nous allons relater dans cette émission. Des faits et des chiffres. C'est bien simple, à la veille de la Première Guerre mondiale, le peuple arménien dépassait les 2 millions de personnes. 10 ans plus tard, en 1923, il atteignait tout juste les 60 000. Entre ces deux dates, une véritable extermination perpétrée avec la complicité des grandes puissances de l'époque. Perpétrée par qui? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les grandes puissances à l'époque se sont contentées de protester. Elles n'ont rien fait véritablement pour arrêter le massacre. Je viens de parler d'extermination, le terme n'est pas neutre. Il s'agit de souligner en effet le caractère malheureusement exemplaire du génocide arménien. Comme le soulignait Jean-Marie Caillou dans un ouvrage qu'il avait publié il y a 40 ans maintenant, lorsqu'en 1939, Hitler s'est apprêté à envahir la Pologne, voilà les phrases qu'il a prononcées devant son état-major. « J'ai donné l'ordre à des unités spéciales de SS de se rendre sur le front polonais et de tuer sans pitié hommes, femmes et enfants. Qui donc parle encore aujourd'hui de l'extermination des Arméniens ?» Après tout, ce qui avait été perpétré contre les Arméniens dans l'indifférence générale pouvait bien être répété d'une certaine manière à l'encontre d'autres populations. Les mêmes actes, pensait Hitler, entraîneraient les mêmes conséquences, autant dire pas grand-chose. On ne peut rien comprendre, en vérité, à ce massacre des Arméniens si l'on ne revient pas longtemps en arrière pour évoquer la saga de ce peuple qui fait son entrée sur la scène historique dès le 7e siècle avant notre ère. L'ethnie arménienne se constitue vers moins 600 par la fusion de ce qu'il reste du royaume d'Urartu. On est au pied du mont Ararat, fusion avec les tribus indo-européennes de l'ouest de l'Euphrate, qui sont là, elles, depuis très longtemps. Le pays, on est au sud du Caucase, hein, entre le sud-est de la mer Noire et les confins de la mer Caspienne. Ce pays est rude, accidenté, avec un relief morcelé qui facilite très tôt la mise en place d'une structure sociale articulée autour des vallées, un peu comme si chaque vallée était en quelque sorte un petit pays. Les terres sont ici fécondes, mais elles sont constamment traversées par des vagues d'envahisseurs. Alors il y a eu des Perses, les Perses achéménides, les Perses et séleucides, les Romains, les Parthes, les Byzantins, les Sassanides. À partir du 7e siècle, les Arabes et puis tous les barbares d'Asie centrale, les Mongols, les Turcomans, les Kurdes, les Turcs seldjoukides, j'y reviendrai d'ailleurs évidemment. Malgré tout, et malgré tous ces passages très violents, la culture arménienne se constitue, se développe, se renforce peut-être même au feu de ces épreuves. La religion, c'est de la religion chrétienne, religion d'État, dès le 4e siècle, qui va remplacer une forme de zoroastrisme. On voit des églises s'implanter dans les villages. L'église arménienne est indépendante, elle est autocéphale, elle est autonome, si vous voulez, dès le 5e siècle, ce qui ne va pas empêcher les Arméniens de participer aux croisades, du reste, en tout cas à certaines d'entre elles. La langue, c'est l'arménien, qui a été fixé au tout début du 5e siècle par un moine qui a fixé l'alphabet arménien, une culture qui va se développer avec toute sa mythologie, etc. On aura peut-être le temps d'en dire un mot tout à l'heure avec Gérard Chalian. Les Turcs, au 15e siècle, envahissent le petit royaume, hein. Vous savez qu'en 1453, c'est la chute de Constantinople. 8 ans plus tard, le sultan reçoit la soumission du peuple arménien. C'est une époque très dure. Les Arméniens, vous le comprenez bien, sont des non-croyants pour les Turcs musulmans. Ils sont tolérés à condition de verser un impôt très fort. Alors il y a toute une partie qui va se convertir à l'islam et devenir faire partie, on va dire, de la haute société administrative ottomane, et puis une autre partie qui fait du commerce pour payer l'impôt, notamment à Istanbul où on va retrouver des banquiers, des financiers, etc. C'est toujours cette histoire. Ces gens vont s'enrichir et évidemment ça va susciter des jalousies et toutes sortes de mauvaises pensées dans la population autochtone. Quand je dis que c'est une dure époque, il faut savoir que l'Arménie sera tiraillée jusqu'au XVIIe siècle inclus entre deux grandes puissances, l'Empire ottoman et les Perses de l'autre côté. Et ça fait beaucoup de victimes, ça dure jusqu'au XIXe siècle. On va parler de la question d'Orient, ça aussi il faut qu'on en dise un mot. Et puis arrive ce grand mouvement d'émancipation des peuples de l'Empire ottoman. Vous savez, ce mouvement initié au tout départ par la Révolution française, qui va pousser un certain nombre de peuples chrétiens à essayer de s'émanciper du joug ottoman. Les Serbes en 1812, les Grecs, on en parle beaucoup, en 1829, et puis évidemment une Europe qui est en pleine expansion, très riche, très puissante à l'époque, et qui va soutenir la Bulgarie, la Roumanie, le Liban, la Macédoine, l'Albanie. Évidemment, les Arméniens se disent « et pourquoi pas nous ?» Sauf que là, on ne parle plus des marches de l'Empire, on est au cœur même. En 1828, le traité de paix russo-perse donne à la Russie une partie de l'Arménie historique. Inutile de vous dire que les Arméniens de Turquie regardent ça de très près. Et ils font les yeux doux à la Russie chrétienne, même si eux sont, enfin, après tout, ils sont autocéphales. Donc, même si la Russie est orthodoxe, peu leur chaud. En 1877, le tsar, sous prétexte de porter secours aux chrétiens d'Arménie, va déclarer la guerre à l'Empire ottoman. C'est une victoire des Russes. Une nouvelle partie du territoire arménien passe du côté des Russes. Il ne faut pas oublier que tout ça, bien sûr, s'inscrit du côté de Moscou, du côté de Saint-Pétersbourg et de la Russie. Ça s'inscrit dans une volonté d'expansion vers le sud, de recherche de débouchés maritimes, évidemment. On est en plein cœur de ce que j'appelais tout à l'heure la question d'Orient.
Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et sur Europe 1, nous sommes cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, au cœur de la grande saga du peuple arménien.
Pour régler cette question d'Orient, un congrès se réunit à Berlin. Le sultan ne s'en tire pas mal, et les Arméniens en apparence non plus, puisque l'article 61 du traité parle de réforme, de bonne administration, de protection des sujets chrétiens par le sultan. Et du coup, les Arméniens se sentent pousser des ailes. Leur tentation d'autonomie refoulée jusque-là refait surface. Évidemment, pour les Turcs, c'est inacceptable. L'Arménie, comprenez-le bien, ça c'est peut-être la base de toute notre affaire, c'est que l'Arménie, c'est le cœur battant de l'Empire. C'est la plaque centrale du territoire. Chez les Arméniens, évidemment, on se prend à rêver d'autonomie, de rébellion. Une fédération révolutionnaire arménienne sera créée avec ses structures, ses leaders, avec le désordre que ça crée. Et ce désordre, c'est du pain béni pour la Sublime Porte, parce que ça va permettre au sultan, à l'administration turque, de remettre de l'ordre, n'est-ce pas? De 1894 à 96, on multiplie les massacres. Il faut imaginer des villages incendiés, pillés. Il y aura, entre, selon les historiens, entre 180 000 et 300 000 victimes pendant ces événements. On appelle Abdulhamid le sultan rouge, et c'est vrai qu'il a mis l'Arménie à genoux, de telle sorte qu'on ne parle plus de questions arméniennes jusqu'en 1908. Pourquoi 1908? Parce que c'est le début de la révolution jeune turque, vous savez. Là, le sultan doit céder sur l'essentiel. Ce qui se passe à partir de 1908 dans l'Empire ottoman, c'est une véritable révolution. Ce que nous, en Occident, avons parfois tendance un peu à oublier. Et c'est une révolution à laquelle participent les Arméniens, dans une forme de fraternité d'armes avec les jeunes Turcs qui se veulent laïcs. Il y a moins de la barrière des religions, disons, est moins sensible soudain. Le sultan est destitué en 1909, remplacé par son frère cadet, Mehmet V. Les jeunes Turcs prennent véritablement le pouvoir. En 1908, à la faveur du désordre général, les grandes puissances de leur côté, ça non plus, il ne faut pas l'oublier, continuent leur expansion. L'Autriche-Hongrie en profite pour annexer la Bosnie-Herzégovine, avec la complicité de l'Allemagne. L'Italie revendique ce qu'on appelait la Tripolitaine, une grande partie de la Libye. Elle occupe Rhodes et les îles voisines. Et en même temps, la Bulgarie proclame son indépendance. Ça commence à aller très mal, ça, du point de vue du gouvernement turc, même si ce sont maintenant les jeunes Turcs qui sont aux commandes. Les Balkans s'embrasent. Il faut céder face à la Bulgarie, à la Serbie, au Monténégro. C'est un échec incroyable pour les Turcs, avec un traité de paix à Bucarest où on voit les Turcs perdre en quelque sorte les assises balkaniques qui avaient fait la puissance même de l'Empire ottoman. Pardon d'insister peut-être sur ces considérations géopolitiques, mais elles sont absolument essentielles dans cette affaire, bien entendu. Donc le climat est très, très lourd à Istanbul, et disons les choses clairement, c'est un soulagement pour le triumvirat au pouvoir, Enver Pasha, Talat Pasha et Cemal Pasha, de voir arriver la Première Guerre mondiale. La Turquie, qui avait été neutre dans les tout premiers temps, devient très vite l'allié du Kaiser, de Guillaume II. Elle rejoint le camp allemand, enfin l'Axe, en octobre 1914. Et assez vite, en mars 1915, les Français et les Anglais, dans les Dardanelles, vont subir un échec tel que les jeunes Turcs se disent « Mais finalement, nous sommes en train de reprendre la main ». Et les Arméniens? Eh bien, depuis 1910, les Arméniens jouissaient d'un nouveau statut. Ils étaient sujets égaux des musulmans, en théorie, égaux en droit, en devoir. Ils devaient accomplir un service militaire. Les Arméniens, notamment les leaders autonomistes, si vous voulez, se considéraient en bons termes avec le nouveau gouvernement turc, avec les jeunes Turcs. Tout ça était totalement faux, évidemment. Il ne faut pas oublier que du côté turc, au fond, il y a une sourde haine. Je crois qu'on peut parler d'un véritable racisme à l'égard des Arméniens, lié à un sentiment de décadence, d'étiolement de l'Empire. Vous savez, c'est cet homme malade de l'Europe qu'avait été l'Empire ottoman et que devenait plus encore la Turquie moderne, en cours d'éclosion dans tous ces grands bouleversements. Cet homme malade voyait lui échapper l'essentiel, à commencer par l'Arménie, et bien sûr sans plaisir. C'est tout de même assez intéressant, cette affaire. Je pense qu'on peut noter que, d'une manière générale, tous les génocides, y compris ceux qui se sont perpétrés sur notre propre territoire, mais je m'empresse de fermer une parenthèse qui me ferait d'encore plus nombreux ennemis aujourd'hui. Tous les génocides naissent toujours au sein de puissances qui se sentent déchues, désespérées ou en tout cas en grand danger.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, votre émission, et vous pouvez réagir quand vous le souhaitez, nous envoyer vos messages, vos questions. Il suffit de vous connecter sur la page Facebook de l'émission, par mail europe1.fr et via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Au cœur de l'histoire revient dans un court instant. Nous retournerons au cœur de l'histoire du peuple arménien.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1 avec vous, Franck Ferrand, et au cœur de l'histoire arménienne et du génocide arménien il y a 100 ans.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les jeunes Turcs n'ont pas l'intention, au fond, de laisser les Arméniens relever durablement la tête et réclamer leur autonomie. On voit, lorsqu'on épluche la correspondance diplomatique, un certain nombre d'historiens ont mis en évidence des idées qui parlent déjà. On est 2 ans, 3 ans même avant le génocide lui-même, on parle déjà d'extermination, d'épuration, etc. Ça, les idées font leur chemin. Vous savez, les jeunes Turcs veulent une Turquie certes réduite, mais moderne, forte, saine. Je vous donne un exemple qui va peut-être choquer certains, mais qui donne une idée de leur état d'esprit. C'est la fameuse décanisation d'Istanbul. Vous savez, il y avait à l'époque dans Istanbul, partout, des espèces de chiens-loups qui un petit côté un peu comme des chacals, si vous voulez, qui étaient des chiens errants, comme on en voit dans beaucoup de pays musulmans. Et on va se mettre à attraper les chiots, à les noyer en masse, et puis à capturer les chiens eux-mêmes, à les déporter sur des îlots rocheux déserts. Que font ces chiens qui n'ont plus rien à manger? Ils sont là pour s'entre-dévorer. Ils finissent par tous mourir, bien entendu, c'est le but. C'est quand même plus de 100 000 chiens qu'on extermine comme ça en quelques mois. Vous allez me dire, le rapprochement est pour le moins osé et audacieux. Oui, mais c'est pour vous expliquer l'état d'esprit de ces gens qui veulent nettoyer, si je puis dire, la Turquie. Et ils vont profiter de cette espèce de puissance retrouvée, tout à fait illusoire en demeurant, mais retrouvée par la Turquie au lendemain de l'échec des Occidentaux, enfin des Alliés sur les Dardanelles, pour en passer à l'extermination des Arméniens. Ça va se dérouler tout ça en plusieurs étapes. D'abord, on répertorie dans les armées, il ne faut pas oublier qu'on est en guerre, bien entendu, tous les hommes. La conscription est très, très étendue, et tous les Arméniens, il faut pouvoir les désarmer, bien entendu. On les verse dans des corps auxiliaires. L'offensive ennemie ayant fait long feu, on passe donc à la phase active dans la nuit du 24 avril. 300 personnalités arméniennes d'Istanbul sont arrêtées, immédiatement déportés sur des îles. L'ordre est donné aux armées de se débarrasser des soldats arméniens qui là sont carrément passés par les armes, et reste, vous allez me dire, toute la population, tout le reste de la population, les femmes, les enfants, les vieillards, les malades, etc. En Cilicie, en Anatolie orientale, alors en Cilicie on les attaque dès le mois de mai, ensuite en juin en Anatolie orientale, en Anatolie occidentale en août. Le prétexte, c'est que ce sont des éléments suspects parce qu'ils sont chrétiens qui pourraient être alliés des Russes, en fait. Hein. On cherche tous les prétextes possibles. Peu importe, ce sont des opérations de police effroyables. On procède par rafles éclairs. On raconte le cas de femmes qui cheminaient pieds nus parce qu'on leur avait même pas donné le temps de se chausser. Dans quelques cas, les personnes sont massacrées sur place. Le plus souvent, elles sont déportées. Ce sont ces déportations qui, du reste, sont le plus meurtrières. Le pays va être complètement ravagé. Hein. Toutes les zones arméniennes. On pourrait évidemment citer un grand nombre de rapports à l'appui de ce que je suis en train de vous dire. Et je sais, parce que je l'ai déjà vécu, que certains contesteront. Mais je vous lis par exemple un rapport britannique. Le 1er juin, 3000 personnes, pour la plupart des femmes, des jeunes filles et des enfants, quittèrent la ville, on ne sait pas laquelle, accompagnées de 70 agents de police et d'un Turc influent, un certain Bey. Le jour suivant, ils arrivèrent sains et saufs à elle. Là, Bey se fit remettre par eux 400 livres afin de les garder en sûreté jusqu'à leur arrivée à Malatya. et promit de les accompagner jusqu'à Urfa pour les protéger. Mais le jour même, il s'enfuit, emportant l'argent. Le troisième jour, le convoi des exilés arriva à Aem, où les Arabes et les Kurdes commencèrent les enlèvements des femmes et des jeunes filles, qui se continuèrent jusqu'à leur arrivée à la première station de chemin de fer à Ras Ulaïn, sur la ligne de Bagdad. Des gendarmes qui leur avaient été donnés pour leur protection incitèrent les tribus admis sauvages des montagnes à les attaquer pour les voler, les tuer ou violer leurs femmes et les enlever, et maintes fois eux-mêmes violèrent les femmes sans s'en cacher. Le 52e jour, ils arrivèrent à un autre village où les Kurdes les dépouillèrent de tout ce qu'ils avaient, même leurs chemises et caleçons, de sorte que pendant 5 jours, ils continuèrent leur marche complètement nus sous un soleil ardent. Les 5 jours suivants, on ne leur donna pas un morceau de pain, ni même une goutte d'eau. Lorsqu'au 60e jour, ils arrivèrent à Alep, il ne restait que 35 femmes et enfants sur les 3000 exilés du départ. Et ce genre de récit, j'en ai pris un ici, mais on pourrait en citer comme ça vraiment des quantités. Alors bien sûr que l'Angleterre notamment, mais d'autres pays vont protester. On sait que à l'ambassade des États-Unis, le fameux Morganzo avait retranscrit dans le dialogue qu'il avait eu avec le ministre de l'Intérieur turc, ce qui prouve que les États-Unis bien sûr étaient au courant. Mais les Turcs continuent néanmoins. Ils vont demander aux instances consulaires des États-Unis de leur fournir une liste des nombreux Arméniens qui ont souscrit des assurances vie auprès de compagnies américaines. Mort sans héritier, le capital d'essai revenait en effet à l'État turc. Vous voyez jusqu'où on a pu aller. Je vous donne ces quelques exemples. Franchement, il faudrait, et là je n'exagère pas, il faudrait des heures pour faire la liste de toutes les exactions, de toutes les horreurs, de toutes les tueries, de toutes les mesquineries de cette terrible affaire. Plutôt qu'entrer dans tous ces détails, ce que je vous propose, c'est de revoir maintenant quels ont été les tenants et les aboutissants de ce génocide avec un grand spécialiste de la question. Bonjour Gérard Chalian.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors nous allons, en votre compagnie, revenir sur ce génocide et sur ses conséquences également, ce dont on ne parle peut-être pas toujours assez.